Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 25e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. L'auteur à l'honneur aujourd'hui est Jérémy Moreau. Né à Tours en 1960, il vit désormais à Nayac en Dordogne. Sa carrière dans le domaine de l'éducatif et de la psychiatrie l'a sensibilisé à toutes les formes de détresse et d'exclusion, et c'est ce qui transparaît dans ses romans. Lauréat de plusieurs prix de poésie, Jérémy Moreau est aussi l'auteur de 4 romans, « Ma mère, cette utopie »,« Un père naufragé du temps » et « Les journées de Givre » aux éditions L'Harmattan, et plus récemment « Les par-dessus de l'enfance » aux éditions Les Impliqués. Ce sont les premières pages de ce dernier roman, publié en février 2025, que je vais maintenant vous lire. Le présent a des racines, et malgré leur profondeur vertigineuse, malgré le temps qui s'écoule et les larmes dont elles sont souvent imprégnées, il faut les déterrer pour comprendre comment, depuis l'enfance, elles se sont enchevêtrées pour aboutir à des souffrances d'adultes, dans des espoirs qui se lèvent et retombent au gré des drames, dans des vérités à plusieurs visages et dans un passé plein de bruit et de douleur. Chapitre 1. Cette rue me ramène de nombreuses années en arrière. Je m'y faufile. Y respire l'odeur des pierres et des feuilles. Y longe les maisons alignées en silence. En fixe les pavés, armés, immobiles et mutiques, avec cette étrange sensation de tourner avec fébrilité le disque de ma mémoire pour trouver la juste fréquence de mon passé. Je revenais, après tant d'années, face au grand portail noir de cet orphelinat où j'avais laissé 10 ans de mon enfance. 10 ans. Passé aux côtés d'une 60aine d'autres enfants, avec les mêmes écorchures, les mêmes blessures, avec des histoires toutes différentes mais présentant tant de similitudes entre elles. Une 60aine de frangins et une 60aine d'éducateurs, hommes et femmes, passant, repassant et ondulant sur la mélodie de ces 10 ans. 10 ans. 10 ans et des 60aines de coups de blouse. 10 ans et des 60aines de coups de pied au cul. 10 ans et des 60aines de silence, des 60aines de conneries, des 60aines de promesses et des 60aines d'espoir. Fin des années 60. Lorsque, ce mardi matin, j'avais franchi pour la première fois les portes de cette maison d'enfant, silencieux comme un gamin pauvre, le regard bas et l'âme cachée, j'étais bien loin de penser que mon exil durerait si longtemps. J'arrivais là sur décision de la DAS après des placements en famille d'accueil et un impossible retour au sein de la structure familiale. La sentence était tombée par contumace, sans aucune possibilité de faire appel. Le bourreau que j'avais dénoncé après tant d'années de douleur resterait en liberté. La société enfermait juste la victime pour la protéger. Je devenais le matricule 3207R, pupille de l'État. Un dortoir sans trop de luminosité, à la peinture bleue usée jusqu'au presque blanc que je visitais. Un peu de gris et des épuisements de couleurs sur des séparations que le temps avait pâlies. Des côte à côte de chevet. Des coussins posés ça et là, pas de jouets. De grands escaliers qui partaient en voyage. Des visages que je croisais, qui me fixaient et se questionnaient. Quelques errants aux joues rouges que je regardais, le regard mélancolique au travers des fenêtres venait compléter le décor. Une cour en pavé et des travaux. Un bruit de ballon qui butait contre un mur, perforait le silence de cette grande bâtisse bourgeoise d'un autre siècle. Quelques fleurs, poussant, çà et là, sans élan et sans désir, semblaient complètement oubliées. pas de bonheur visible ni de couleurs éclatantes. De longs couloirs déserts qui essoufflaient en pièces quasi vides, qui inquiétaient. Je déposais ma solitude pendant que mes affaires se rangeaient au premier étage de ce bout de route et que je continuais ma visite, le corps entortillé entre les chaises et les bureaux de l'immense salle d'études que je traversais. Autre cour intérieure, plus petite, et de nouveau des enfants qui jouaient, mimant avec le bras le port d'un pistolet et avec la bouche de bruyantes détonations. Notre visite empoisonnait leur jeu. Corps momifié, souffle bruyant et œil sombre derrière des mèches rebelles, ils s'imposaient en propriétaires des lieux. Un peu honteux, un peu triste, j'enterrais le comique de leur bizarrerie en répondant aux questions de la personne qui me guidait. Courses et bousculades au bas du grand escalier que l'on descendait pour se retrouver devant le bâtiment principal, voix avec des restes d'enfance, cheveux ébouriffés et marmailles qui se tiraient le pull tout en se massant la tignasse. Déséquilibre à la vue de mon accompagnateur. Plus de courses. Une mouche était venue voler autour de moi et tout s'était détendu. Ce silence me frappait. Il respirait la crainte et la peur. Je le connaissais. Pas envie de me déshabiller verbalement en mettant les pieds dans le plat. Je censurais cette émotion, mais un message essentiel était passé. Dans une poignée d'heures, cette grande bâtisse, ce grand dortoir, croulerait sous un trop-plein de parenté. Elle serait psychothérapeute, savant maudit, mère au bord de la crise de nerfs, chirurgie bienfaisante à dose modérée, archive et métamorphose. J'étais son dernier fœtus entrant et un nouveau témoin, issu d'une grossesse ratée, souffrant du mal de mère et cherchant à passer d'une souffrance à un malheur banal, faisant là un passage, arrêt presque obligé, tel un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur les pavés de cette rue qui deviendront ceux de mon enfance. Chapitre 2. Cris d'effroi et attroupement. On se molestait. On voulait arracher des aveux à un présumé coupable. On resserrait le cercle. Ça s'agitait. Deux adultes, dont le guide d'hier, sorti par une porte proche, avaient sans ménagement dispersé l'attroupement et s'étaient transformés en héros sauveurs. « Pas de violence !» criaient aux deux visages qui exprimaient la colère et deux claques appuyées pour dissuader tout prochain règlement de compte. « Quelque chose à redire, messieurs ? Non ? Alors tout le monde circule !» Je continuais de tremper ma tartine. Ma nuit avait été mauvaise. J'étais paumé. Hier soir, dans le dortoir, ils avaient promené sur moi des yeux écarquillés, étonnés, écorchés. Ma fébrilité avait ravi les plus grands, les plus costauds. J'avais pénétré leur espace par effraction et les propositions pour en payer le prix s'étaient enchaînées, cyniques et grande gueule. Dans chaque scénario, ils démontraient leur volonté d'en découdre avec le nouveau que j'étais. Ils étaient les chefs, les plus âgés, et je tombais là, vulnérable à souhait, presque infirme faute de place, me cognant, inquiet, au mur d'une pièce devenue subitement trop petite. J'apprenais dans le même temps leur façon de marcher, leur magouille, leur violence, leur soif de pouvoir et leur dialogue nocturne, loin de tout dispositif d'urgence. Première règle, le silence. Ici, on fermait sa bouche. On ne rapportait pas aux éducateurs, sinon c'était la correction et l'amende. Ici, tout avait un prix, le leur. Tour à tour, chacun avait repris le flambeau, d'intimidation en intimidation, comme une longue traque. Il me trouvait antipathique, et c'était palpable. Comment se battre seul contre un dortoir ? Mon angoisse se lisait, et ils en riaient pendant que des lambeaux de vécu se ramenaient au jour. Les yeux lourds de secrets, j'argumentais ma peur de cette maltraitance. Rien ne les touchait. « Maman, j'ai perdu mon doudou !» Rire pour eux, à la sortie de cette moquerie par celui qui semblait être le chef des chefs, dans ce cercle vicieux de caïdes de dortoir, et douleur pour moi quand deux coups de poing percutaient mes épaules. pas de pleurs, juste une peur au ventre que je connaissais déjà. J'attendais la gorge nouée, mais rompue à l'exercice, que la lassitude les gagne en dédramatisant tout et en m'inculquant à très forte dose la volonté de ne pas leur faire plaisir en versant des larmes. Ne pas mendier leur pitié. Pour les coups, j'avais l'impression de posséder une âme de vieillard. Merci, ma mère, de m'avoir endurci. Ils avaient continué un long moment leur duel à main nue, tout en formant autour de moi un aligné de trognes de bagarreurs incroyables. C'était à qui allait emporter l'enjeu de briser la bouillie inexpressive que je leur renvoyais, confiné dans le huis clos de ma solitude. Le réfectoire se vidait. Je finissais seul, debout contre la table, le contenu de mon bol. Des senteurs de graisse fondue et d'herbes aromatiques émanaient de la cuisine en haut de l'escalier et se répandaient sur les steppes de mes pensées marécageuses. Quel était donc ce rituel né sans doute dans la nuit des temps? Pourquoi étais-je leur ennemi? Quelques piécettes offertes par ma dernière famille d'accueil et que j'avais pu garder tintaient dans le fond de ma poche quand, après quelques minutes de chancelant, je me poussais vers les quelques marches de bois qui menaient vers ma nouvelle condition de gibier pour cette nouvelle famille ensauvagée et hallucinée, telle une sarabande endiablée, et vers la grande salle d'études. Odeur d'encaustique. Vieux papier peint, traces indélébiles imprégnées dans le bois des bureaux comme des souvenirs, des rites de passage, théâtre d'ombre dans une mémoire collective. J'étais là, sans aucune raison d'y venir. Qu'est-ce que je faisais aujourd'hui? Personne ne m'avait rien dit. J'avais soudain peur de ne pas avoir entendu quelqu'un ou quelque chose. Je séchais, bien malgré moi, ma scolarité. Mon changement de résidence scellait à plus ou moins court terme un changement d'école. Aucun adulte. J'étais seul, dans ce théâtre, où, un peu ahuri et surtout très perdu, j'arpentais les premiers chapitres de mes premiers volumes. Les départs vers les différentes classes intramuros et extramuros faisaient coulisser les panneaux de ce décor. La grande maison se vidait de bruit et de vie, me donnant l'impression de s'éteindre petit à petit. Comme un soldat en faction à son poste de garde, je la surveillais à la recherche de ses fantômes, de ses coups de cœur, de ses déceptions. J'étais là, ami de la famille. Pour le reste, cela ne méritait pas le César de la mise en scène. C'était le début du tournage d'une nouvelle partie de mon histoire, le début de nombre de nuits de monastère, le début d'une plongée dans les yeux de l'incompréhension. C'était l'apprentissage de la vie en collectivité, même si, au vu de ce que j'avais vécu dès le premier soir, cela ressemblait plus à un gang qu'à une collectivité, avec à sa tête des duos, voire des trios de parrains, plus en culotte courte, mais pas encore tout à fait en pantalon long. Il fallait faire sa place, demeurer et ne pas s'écraser, les manipuler avec prudence comme si on manipulait une bouteille d'acide. Ma force, du fait de mon âge, n'était pas physique. Les plus grands avaient 5 à 6 ans de plus que moi, voire un peu plus pour 4 ou 5 en attente de départ. Mais j'avais des ressources, des crayons et des gommes pour sans cesse redessiner, réécrire mes aujourd'hui et mes demain, et n'avais aucune peur des moyens importants que certaines personnes peuvent mettre en place, avec sans cesse de nouvelles perversions afin de soumettre les plus faibles. Ils sauraient sans aucun doute me terroriser, cela était d'ailleurs déjà fait, mais je saurais nettoyer mes plaies, les désinfecter, en tuer les bactéries et en stimuler la guérison. Le film était banal. La collectivité soit déshumanise, soit victimise. Une fois cela compris, vivent les préados rebelles. Mais qu'ils furent durs, ces débuts. Durs comme un débarquement, comme un raz-de-marée qui vous engloutit sans armistice. J'étais le nouveau, et ils m'expropriaient de leur paysage. Leur mécanique bien huilée me creusait comme une pelleteuse, leur poids me ratissait. Ils avançaient, coûte que coûte, puissants, fermés au dialogue. Personne pour m'aider, pour calmer les esprits. J'étais aux abois. Ils me travaillaient comme des micro-chirurgiens, et quand, attiré par le chahut, l'éducateur de nuit montait, « T'ouvre ta bouche et ce sera pire! Joue pas les balances !» Un faux silence s'installait, encore plus pesant que l'odeur d'une chair en putréfaction. Des soirs et des soirs d'armoires éventrées, d'habits déchirés ou jetés dans le trou des WC à la turque. Des soirs de mains sur moi qui me déshabillaient, me serraient les testicules pour m'obliger à siffler, qui devaient sans doute prendre du plaisir à me mettre à poil sous les cris d'une réjouissance collective croustillante comme un viol crevant l'écran d'un cinéma pornographique. Des douleurs, des impasses, des heures à chercher comment m'échapper, comment ne plus être leur flagrant délit, leur faux ennemi, leur festin. Des heures dépouillées de mes vêtements, de mon peu de bien, de mon âme, à tenter, malgré la honte et le mutilé, de continuer à m'accepter, en censurant ces mouvements de tournante, en me sentant sale, sauvage et inquiet. Des heures à attendre le sommeil qui venait emmailloter ses thénardiers, accompagné de son noir absolu et de son silence assourdissant qui me prenait par la main pour m'accompagner vers des métamorphoses et des fins de révolution, où je n'étais plus cet écorché défilant dans l'incertitude et l'allergie des non-chanceux. Chapitre 3. Des nuits comme des remparts, des contrepoisons, où, pendant des semaines, les mâchoires serrées, j'avais brouillé les cartes de la réalité pour tenter de rire, où j'avais surmonté des mers démontées, des désespoirs et de l'absurde dans des fonds de tranchées où, épuisés, s'endorment tard les poilus, respirant la mort, la peur et les odeurs de poudre. Après quelques jours d'observation, j'avais troqué l'école Pasteur pour l'école Anatole France. Là, pas de grand changement. Du biscornu, de la grande gueule, de la vraie tare, du déjà porteur de treillis et noyé dans tout cela encore quelques aventures de cap et d'épée, quelques mises en scène où l'on retrouvait un peu de son enfance et quelques voyageurs tombés de la lune. Seule respiration à plein poumon, la senteur jardin de plusieurs jolis souvenirs habillés en jupe courte qui faisaient naître en moi des éclairs de poésie inoubliables et des images sublimes qui prenaient vie puis s'évanouissaient. Faute d'oser parler. Il faut dire qu'à l'époque de ce récit, les maisons d'enfants n'étaient pas mixtes. Avant d'être pensionnaire de cette grande maison, je me sentais bien à l'école. J'y ouvrais mes valises, y fermais quelques volets pour de nouvelles libertés. J'étais enfin moi, un jumeau de moi ou un autre moi. Sans doute, à cause de tout ce qui se passait au sein du cercle familial, l'école était devenue ma liberté, mon refuge. Dans cette nouvelle école, tout recommençait comme si la vie n'était qu'une vaste comédie. Je ne me sentais plus disparu dans le silence. J'y aimais tout et je me rempaillais, bravant de nouveaux abrutis grâce à de nouvelles libertés. J'entendais de nouvelles histoires et tout cela doublait, triplait, voire quadruplait mes pouvoirs anesthésiants. Difficile à croire d'un enfant, mais l'école me réjouissait. Elle était ma confidente. Ma salle d'attente, mon fleuve nourricier. En un mot, elle m'apaisait et faisait que, dès ses portes franchies, je ne prêtais plus qu'une vague attention et importance aux bavures que les crétins du soir me faisaient subir, trouvant en son sein tous les casiers qui m'étaient nécessaires pour y loger mes horreurs et mes barbaries. Ces crétins du soir. J'aime bien cette expression pour ces frères inhumains. Que de rôles m'avaient-ils offert dans leur labyrinthe de la loi du plus fort. Mais parce qu'il y a toujours un mais, de processus en processus, je me faisais quand même un bout de place. J'avais, de petit service en petit service, été utilisé, pour éviter de dire un mot plus fort, comme valet, homme à tout faire, cireur de pompe, et avait presque obtenu, sans héroïsme aucun de ma part, la confiance de certains hauts dirigeants de la sainte mafia des dortoirs. Mes silences et mes manques de pleurs faisaient de moi un sujet étrange. Même s'il me réservait encore quelques raffinements, il y avait du mieux. Je passerai ici les croustillants détails qui faisaient de moi une caricature ou un dessin humoristique au gré de leur humeur. Ce mieux était une petite victoire qui ne m'empêchait pas de garder la tête froide. Mon arrivée en cours d'année avait fait que l'on m'avait installé dans le seul des quatre groupes où il restait de la place. En l'occurrence, le groupe 1, celui des plus grands. Normalement, à mon âge, j'aurais dû être dans le groupe 3, voire 4. Ceci expliquant cela, je savais qu'à la fin de l'année scolaire, ou quasiment, tous allaient soit partir, soit changer de structure. Je devais faire attention à ces demi-dieux triomphants, capables de tout, et protéger ma tête de poupon triste pour ne pas être autopsié par ces justiciers postés à l'est d'Éden. Les week-ends étaient plus calmes. Beaucoup d'enfants partaient, principalement en famille ou en famille d'accueil, et pour les autres comme moi, du moins au début de ce placement, pas de sortie. La grande bâtisse devenait ces jours-là un jeu de lois géant et chaque pièce une immense case où l'on s'arrêtait ici et là avant de faire marche arrière. La pression se relâchait, donnant cet étrange sentiment d'avoir un peu de pouvoir. Des jeux, quelques sorties en ville, bien en rang, deux par deux, à la découverte de quartiers qui m'étaient totalement inconnus. Des longueurs de rues comme des allées de forteresses. De l'abondance de gestes pleins d'improvisation pour cette petite armée criarde loin des murs. De l'ennui également, quand il faisait trop mauvais ou que l'éducateur de week-end était trop fainéant pour sortir. C'étaient nos journées d'attente, telles des chats devant un trou de souris, durant lesquelles on se dessinait une autre vie. Notre imagination nous faisait franchir tous les horizons. Des recoins d'escaliers qui devenaient grottes perdues au fond des océans. Des franchissements de seuils à quatre pattes ou en rampant, tétanisés par de fausses lumières aveuglantes. Des tournées à gauche, à droite, des vraiment pas loin mais ailleurs. Des tentées de s'enfuir que l'on invente en rêve et que l'on se joue. Pas beaucoup de plaisir, mais dans notre petite misère, ces jours de calme étaient des jours de fête. Certains enfants qui restaient comme moi recevaient parfois, pour quelques heures, des membres de leur famille qui n'avaient obtenu qu'un droit de visite. C'est ce qu'avait obtenu mon père, dans l'attente d'un droit d'hébergement, un droit de visite à la grande bâtisse. Pour ma mère, la question ne se posait pas. Aucun contact. Je n'en ferai jamais la demande. Elle ne fut que fragments, clichés jaunis, morsures, douleurs, voix lointaine et milieu complètement étranger. Avec mon père, que restait-il de notre histoire? Le rire était mort, laissant place à des émotions enfouies. Il avait maigri, avait vendu la superbe 4 chevaux Renault qui m'avait tant ébloui et fait rêver. C'est en vélo qu'il arrivait, souvent le samedi vers 16h30, semblant toujours penser à autre chose. On venait me chercher, et on m'accompagnait comme pour me présenter. M'aurait-il oublié? Un peu cloîtré, un peu amer, nous partions pour une grande interview peuplée de conseils, de messages et de « tout le monde en parle ». Ses paroles se traînaient, soucieuses de ne pas aggraver son absence, puis elle prenait des pauses pendant que ses mains me caressaient les cheveux. Et beaucoup, beaucoup de « tu te souviens ?» Puis venait le vide. J'étais comme happé par un énorme trou. Ne me restait que quelques pièces de fond de poche qu'il me laissait à chacun de ses au revoir. Je le regardais partir, poussant son vélo dans un bruit de ferraille, de cliquetis sur les pavés de cette rue, aux prises avec sa propre histoire, son propre destin et son propre désastre. Chaque entrevue rouvrait des blessures à peine refermées, mais elle rassurait quand même un peu mes peurs. Avec émotion et sans colère, malgré tout, nous rebâtissions à chacune de ces visites une petite partie d'un nouveau pont. Je ne connaissais plus ces usures à l'usine, ces souffrances, ces tranches horaires. À aucun moment il ne s'attardait sur lui. Il ne se plaignait toujours pas de ce coup du sort qui venait de décimer sa vie et continuait, tel un survivant, à tenter de résoudre, en répétant sans doute 100 fois par jour les mêmes gestes, l'énigme de sa vie de couple brisé. Un morceau de lui était tombé à la mer et déclaré perdu, corps et âme. Rien non plus, sur celle qui devait partir mais qui, pour le moment, demeurait malgré tout encore à ses côtés. L'aimait-il à ce point? Était-il dans le renoncement total ou mu par la peur et trouillard dans la révolte? Quelle réalité décevante succéderait à l'amour de le savoir lâche à ce point, si telle en était la raison? Est-ce que je connaissais le père qu'il était? Pourquoi son silence? Je savais qu'il avait été entendu par la police quand je fus soustrait par la justice. L'amour me posait question. Était-il à ce point une maladie, une souffrance, une folie? Pour mon père, quelle en était sa ténébreuse définition? Qu'attendait-il de cette femme, de cette mère et de leur relation aux mensonges minables? Préférait-il la souffrance à l'ennui? Après ses illusions évanouies, décidait-il de rester dans l'enfer lugubre d'un face-à-face, toi et moi, pour la vie, morne et sans aucune profondeur? Et si je n'avais rien compris? Si l'amour avait cette voracité illimitée et qu'il fallait que je parte pour qu'à nouveau il puisse se retrouver? Si pendant toutes ces années, j'avais été leur tourment, leur désespoir et l'objet de leur détresse amoureuse? Quelles étaient les vraies raisons de leur échec? Drôle d'interrogation dans la petite tête d'un minot. Mais je m'en posais encore bien plus, et je pensais que tous, dans cette grande bâtisse, tout groupe confondu, du plus jeune au plus âgé, tentaient ou avaient tenté de la trouver, cette vérité, tout comme tenter de savoir ce qui allait suivre dans leur vie. Quel allait être leur destin? Quelle route allait croiser les leurs? Cette grande bâtisse était-elle, pour les enfants qu'elle adoptait, une épreuve ou une punition? Pourrions-nous un jour quitter ces par-dessus qui s'entassaient sur nous? Ce peu de dialogue entre mon père et moi, ces visites comme si nous étions des amis, entachaient l'admiration que j'avais eue pour lui. Où nous mèneraient ces pavés, armés, immobiles et mutiques, qui tapissaient cette rue, et quel serait le tremplin de notre futur? Perdu dans mes ruptures, j'avais du mal à remettre les choses à leur juste place. Rien ne semblant pouvoir stopper tout ce moi qui se disloquait. Heureusement ou malheureusement, avec tous les crétins du soir et pour certains aussi crétins de jour, je n'avais guère le temps de trop réfléchir. Eux avaient, depuis belle lurette, décrypté mes blocages et mes débâcles. Ils n'oubliaient pas de m'ausculter, avec des sentiments qui risquaient plus de me rendre infirme que me guérir. Ils avaient su, et cela depuis le premier jour, me développer des prothèses et des stimulants, version prédateur, et pas toujours adaptée. Faute de mieux, ils avaient le mérite de rendre bien imprudent le fait de se reposer sur une première hypothèse et vous suggéraient un zapping cérébral quasi quotidien pour tenter de bien comprendre comment leur cerveau pouvait fonctionner, s'ils en avaient un. Ce qui était moins sûr que le fait qu'il représentait pour moi et quelques autres jeunes des autres groupes, comme on le lit de nos jours sur les paquets de cigarettes, un danger pour l'entourage. Vous venez d'entendre un extrait des « Par-dessus de l'enfance » de Jérémy Moreau, publié aux éditions Les Impliqués. Vous pouvez vous procurer ce livre et tous les autres de Jérémy Moreau dans toutes les librairies et sur les sites de vente en ligne. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou en laissant un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute. Et à la prochaine fois.